retrouver pour un nouveau numéro d'International. Nous sommes toujours sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale. International, cette émission réalisée avec nos confrères du quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, décor inhabituel puisque nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à l'occasion de ce deuxième forum des femmes francophones qui vient de se dérouler dans cette capitale. Et nous sommes accueillis par le ministre porte-parole, ministre des médias, porte-parole de ce gouvernement. Merci, monsieur Lambert Mende Omalanga, de nous recevoir. Beaucoup de questions à vous poser. Le gouvernement s'exprime peu. Le président Kabila s'exprime encore moins, pourrait-on dire. Donc beaucoup de questions. Peut-être tout d'abord celle-ci. Donc Forum des femmes francophones sur le droit des femmes. Nous sommes dans un pays où parfois de façon massive, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. C'était le bon endroit pour faire ce forum ?
Oui, je pense que effectivement, nous sommes dans un pays qui a subi une guerre odieuse, une guerre d'agression depuis quelques années, une guerre qui s'est importée de l'extérieur et qui a importé justement ses habitudes criminelles. On viole des femmes pour faire disparaître des groupes ethniques, faire disparaître toute une nation,
la démembrer. Vous accusez qui précisément ?
Nous accusons le Rwanda qui a importé depuis 1994, je crois, ces problèmes en République démocratique du Congo et qui nous empêche de décoller.
Sophie Malibo.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour régler ce problème, pour déjà empêcher que ces viols ne se perpétuent, puisque a priori ça continue je crois savoir qu'il y a un plan d'action du gouvernement.
Oui, la première chose à faire était de mettre fin à cette agression. Nous nous y sommes pris, et heureusement, avec le soutien de tous nos partenaires de la communauté internationale, la MONUSCO, les pays de la SADC, nous avons pu vaincre la principale de ces forces négatives. D'autres continuent à s'agiter, mais elles sont moins dangereuses que le M23. Et nous avons toute une série de programmes à mettre en œuvre pour cela. Il faut d'abord nettoyer l'espace, il faut rétablir ces familles qui ont été victimes de la guerre dans leur lieu de vie naturelle. C'est un travail de réhabilitation qui coûte de l'argent et nous collaborons avec nos partenaires, mais nous payons déjà beaucoup à partir de notre propre budget et ensuite travailler les esprits qui ont été contaminés par cette façon de faire. Nous ne l'avons jamais vécu chez nous, mais des jeunes ont pris ces habitudes-là. Il faut absolument faire en sorte que ça change.
Quand vous dites que nous avons été contaminés, vous attestez qu'il y a bien maintenant aussi, ça n'est pas simplement une menace venue de l'extérieur, c'est devenu quelque chose qui se pratique aussi parmi la population congolaise.
Parce qu'il y a
des groupes rebelles qui ne cessent d'émerger, toujours une nouvelle rébellion, de nouveaux groupes.
Bon, qui ne cesse d'émerger, ça serait beaucoup dire. Il faut dire qu'au pire moment, il y avait entre 55 et 60 groupes armés. Maintenant, nous en enregistrons 27. Je pense que c'est plutôt une régression. Mais même s'il n'y en avait qu'un seul, ça serait un de trop. Parce que c'est là que, justement, se développent ces pratiques-là.
Lambert, que va-t-il se passer pour l'auteur de ces viols ? Est-ce qu'on est plutôt dans une approche d'amnistie ? Ou est-ce que ces crimes seront jugés et éventuellement punis ?
Nous avons effectivement convenu lors des concertations de Kampala d'amnistier ceux qui sont à la base de tous ces problèmes pour des crimes autres que celui-là. Nous avons décidé de mettre hors de l'amnistie.
Mais les viols ne sont pas amnistiés.
Les viols, les violences sexuelles ne peuvent faire l'objet d'aucune possibilité d'amnistie.
Alors, je le disais, nous sommes venus à l'occasion de ce forum des femmes francophones. La francophonie a des valeurs, celle des femmes, on l'évoque ici. Nous sommes également dans un pays qui parfois était contesté. C'était le cas lors du sommet de la francophonie avec François Hollande, le président Hollande, sur le respect des droits de l'homme dans ce pays. Ils ne sont pas pleinement respectés, dit parfois la communauté internationale. Comment réagissez-vous à ces critiques, à ces accusations qui reviennent fréquemment ?
Nous avions contesté la lecture qu'on avait de la situation au Congo parce qu'il y avait une confusion de genre. Lorsque nous sommes victimes de ces viols sur nos femmes, on nous accusait, nous, d'être coupables de ces viols, alors que
de ne pas avoir défendu ces femmes.
Nous sommes les victimes de ces viols. C'est une guerre. Vous savez, on ne va pas reprocher à un pays agressé de ne s'être pas défendu, comme si celui qui appelait l'agresseur à le faire. Il y a eu un rapport de force, nous l'avons inversé. On ne va pas nous accuser, au moment où nous n'avions pas encore inversé ce rapport de force, d'être coupables d'une agression qui nous, en réalité, nous ciblait. Et donc, nous avons trouvé particulièrement injuste qu'on ne fasse pas la part des choses, et nous l'avons dit au président Hollande.
Maintenant, du point de vue des femmes, le mal est fait. Un certain nombre d'entre elles sont victimes et doivent vivre avec ça. Est-ce qu'elles peuvent attendre des réparations concrètes, financières? Est-ce que le gouvernement congolais prévoit de les indemniser, si on peut dire, parce que de toute façon, c'est très difficile de supporter cette violence le restant de sa vie. Mais est-ce que quelque chose est fait pour les aider, ne serait-ce que concrètement?
Je pense que l'indemnisation commence par la punition des coupables. Et il est évident que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à un autre doit être réparé. Et la question de l'indemnisation se pose d'abord vis-à-vis des responsables de ces actes criminels. C'est ça le problème de la confusion. L'État doit indemniser, mais ce n'est pas le personnel de l'État qui a commis ces actes. C'est même des étrangers parfois.
Oui, enfin,
et nous sommes en pourparler.
Si les victimes doivent attendre que leur propre violeur...
Ce n'est pas tout. Je suis en train de développer. Nous avons aussi deux ministères qui sont chargés de ces questions-là, d'identifier les victimes, de leur proposer une assistance. Ce n'est pas une indemnisation parce que les mots ont leur sens en droit. Une assistance,
le mot indemnisation est mal choisi.
Et le ministère des Affaires humanitaires qui sont impliqués et nous dépensons beaucoup d'argent pour ces tentatives de réinsertion de nos sœurs et de nos mères qui ont été victimes de ces criminels.
On a beaucoup parlé au cours de cette semaine de la gouvernance, de la place des femmes dans la gouvernance africaine. Il y a peu de femmes présidentes de la République, à ma connaissance il y en a trois, peu de femmes ministres. Que fait le Congo pour faire une place dans cette gouvernance, qu'elle ne soit pas exclusivement masculine?
J'espère qu'un jour nous aurons des femmes candidates crédibles aux élections présidentielles ici. En attendant, nous avons pris une série de mesures extrêmement crédibles lorsque nous avons décidé au cours des concertations nationales de nous impliquer, majorité opposition, dans le Parlement pour que la loi électorale que nous sommes en train de revisiter prévoie des quotas bloqués pour les femmes. C'est-à-dire la mieux élue des femmes sur une liste où il y aura une circonscription, où il y aura trois sièges, devra être la troisième personne élue, même s'il y a des hommes après les deux premiers qui pourraient faire mieux qu'elle.
Le principe, c'est d'avoir un quota autour de 30%
de femmes. 30% de femmes, ça c'est l'option actuelle, en attendant d'évoluer vers la parité totale.
Je vous posais la question il y a un instant avec Sophie Malibeau, des critiques récurrentes au-delà de la situation des femmes sur la gouvernance et sur les droits de l'homme. À nouveau, est-ce que dans ce pays, les droits de l'opposition, le droit de la presse, vous semblent aujourd'hui parvenus à un stade satisfaisant? Vous savez qu'un certain nombre de classements présentent le Congo dans une situation fragile de ce point de vue.
Ce sont des classements extrêmement biaisés pour la presse, par exemple. Dans ce pays, la presse n'a pas attendu que les politiques puissent secouer le cocotier. Ouais. C'est depuis 1990 que les médias congolais, et Mobutu avait encore 7 ans en 90, se sont libérés. Depuis lors, on n'a enregistré aucune régression dans les droits d'expression, les droits de la presse dans ce pays.
Vous dites sauf que les organes des opposants, que ce soit Étienne Tshisekedi ou Vital Kamerhe, n'ont plus droit d'exister. Ils ont été fermés en amont des élections et n'ont pas réouvert depuis.
C'est une façon tout à fait biaisée de présenter la situation. Tous les organes proches de M. Tshisekedi sont en train de travailler normalement. Je peux vous citer des journaux comme la Tempête des Tropiques, des télévisions comme CNTV qui marchent normalement. Ce sont des gens qui sont très proches de M. Tshisekedi. M. Kamerhe n'a jamais créé un organe de presse dans ce pays. Donc on raconte des histoires, mais en réalité, je peux vous faire accéder à la liste des archives des organes de presse. Je n'en vois aucun qui appartiennent à M. Kamerhe. M. Kamerhe tente d'acheter un organe de presse. Il l'a fait dans des conditions que l'administration a trouvées contestables. Nous lui avons conseillé de se mettre en ordre avec l'administration, comme n'importe quel citoyen, et il prétend qu'on a fermé un organe. C'est du mensonge.
Puisqu'on est sur ça.
Mais au jour d'aujourd'hui, il ne peut donc pas avoir cet organe de presse.
Je ne sais pas si on peut l'avoir sans remplir les conditions que l'administration met pour avoir la création d'un organe de presse.
Et est-ce qu'il est question que l'administration facilite un petit peu les conditions pour que tous les opposants puissent avoir voix au chapitre, par exemple ?
Nous avons probablement une soixantaine de chaînes de télévision dans ce pays. Je peux vous dire qu'au moins 35 appartiennent à l'opposition.
Mais d'après certains observateurs, malgré tout, malgré la quantité, malgré le nombre des organes de presse, l'opposition est très peu visible.
Puisque 35 sur 60 leur appartiennent, comment pouvez-vous dire qu'ils ne sont pas visibles ? Seulement 25 appartiennent à des gens qui seraient plutôt proches du chef de l'État. Nous avons bien sûr deux médias publics dont le retentissement est plus important. Nous sommes dans les bâtiments de l'un de ces deux médias. Mais pour le reste, tout ce qui est privé est majoritairement de l'opposition. Donc dire qu'ils ne sont pas audibles, c'est totalement faux. On a même l'impression que les télévisions passent leur temps ici à insulter le président, le gouvernement, à critiquer ce que nous faisons. C'est très démocratique, sauf les insultes. Mais dire vraiment que l'opposition n'est pas entendue, n'est pas lue dans ce pays, c'est le premier mensonge. Sortez dans la rue, faites votre enquête et les gens vous diront qu'ils entendent bien ce que l'opposition a à dire.
Monsieur Ménès, si on pose la question différemment, ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Vous diriez qu'elle est parvenue à un stade mature de démocratie, d'exercice démocratique, où vous dites encore, il y a des progrès à faire sur cette opposition, sur l'organisation des élections, sur un certain nombre de choses.
Tout est question de proportion et de comparaison. Nous sommes dans une région d'Afrique, l'Afrique subsaharienne, où je pense que nous sommes en tête de peloton en ce qui concerne les droits de l'opposition. En ce qui concerne les droits de la presse, nous ne disons pas que c'est la panacée. Nous ne disons pas qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Beaucoup reste à faire.
Quels efforts restent-ils à faire ?
Nous présenter comme la lanterne, alors que nous sommes parmi ceux qui ont montré le chemin. Nous subissons même des reproches, parfois, de la part de certains dirigeants de pays africains pour dire « Vous y allez un peu trop vite ». Lorsqu'il y a des débats au Parlement, je vous jure que dans certains pays voisins, les gens arrêtent de travailler pour voir ce qu'ils ne voient pas chez eux.
Sophie, vous posez la question.
Dans quel domaine est-ce que vous pensez que vous pourriez progresser ? Qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus pour parfaire la démocratie et le dialogue avec l'opposition ?
Nous pouvons trouver des moyens pour soutenir les médias, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, pour qu'ils aient un peu plus de rayonnement, parce que tous sont à la même enseigne. Très peu dépassent le rayon de ce microcosme qu'est Kinshasa, avec ses 10-12% de la population congolaise. Bon, là, évidemment, il y a des choses à faire pour qu'ils soient capables d'aller plus loin, de porter leur message beaucoup plus loin. Mais c'est tout le monde qui subit ces restrictions-là. Ce sont des restrictions tout à fait infrastructurelles.
Précisément, si on essaie d'anticiper un peu à propos de cette gouvernance, dans deux ans, élection présidentielle, derrière vous, on voit Joseph Kabila, le président. Théoriquement, la Constitution lui fait impossibilité de se représenter. Est-ce que, comme dans pas mal d'autres pays à travers la planète, on peut revoir la Constitution ? Est-ce que vous nous dites, Joseph Kabila, Kabila ne sera pas candidat à cette prochaine élection présidentielle.
Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base des comportements des autres.
Non, je pose la question, il n'y a pas de jugement dans ma question.
Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution.
Il ne sera donc pas candidat.
Il n'y a pas plus de deux mandats consécutifs, il n'y aura pas plus de deux mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre.
Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ?
Nous moquons bien quand nous voyons des amis de l'opposition s'agiter autour du fait que le président doit prendre son micro et dire « je ne vais pas me représenter ». Pour quelle raison il dirait cela ? Puisque la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter.
Pourquoi est-ce que le président
doit prêter serment ? On veut que le président prête serment tous les jours ? Il a déjà dit, lorsqu'il est entré en fonction, qu'il va respecter la Constitution.
On vous entend bien, mais dans pas mal de pays, des présidents ont dit ça, puis au dernier moment, ils ont changé la Constitution.
Je ne peux pas fonctionner par rapport à d'autres pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est Joseph Kabila.
Et il ne
s'agit
pas...
Ça n'a rien à voir avec d'autres personnes.
Sans parler de prêter serment à chaque fois qu'il prend la parole,
oui,
en fait, le président ne prend pas souvent la parole. Comment expliquer qu'on l'entend aussi
on le voit
peu,
peu. On le voit peu.
Chez nous, quelquefois, on les voit presque trop, et ici, il a très peu de contact direct et très peu d'intervention.
Et
finalement, ça pourrait apaiser le climat, puisque vous le dites vous-même, l'opposition suspecte qu'il y ait modification.
Vous savez, moi, j'ai dans ma famille le bonheur d'être père de jumeaux, entre autres. Alors comment il se fait que l'une est une fille et l'autre est un garçon ? Comment des gens sont l'un disert, l'autre taiseux? Mais écoutez, c'est un problème de caractère.
Le président Kabila est un taiseux.
Oui, c'est quelqu'un qui préfère agir plutôt que de parler. C'est comme ça qu'il est. Et il y a des organes dans l'État qui communiquent.
On peut être gouvernant et silencieux.
Ça peut arriver, pourquoi pas. C'est le résultat qui parle pour lui.
Est-ce que vous regardez ce qui se passe à l'international, bien évidemment, pardon, mais par exemple ce qui se passe actuellement en Ukraine, où c'est la population qui a renversé un régime. Ça n'arrive guère en Afrique. Est-ce que vous, quel parallèle vous faites?
C'est déjà arrivé en Afrique, parce que l'Égypte est africaine.
C'est, vous avez
parce
raison.
Parce que la Libye est africaine.
Vous avez raison.
Ce sont des choses qui peuvent arriver partout. Mais nous nous méfions des révolutions spectacles. Parce que nous parlons de cela.
Vous dites pas que c'est une bonne chose que la population exprime un ras-le-bol et change des dirigeants.
Mais c'est quelle population
corrompus.
Ça dépend de la définition qui est donnée par différents organes de presse. Vous ne parlez pas de la Crimée. Ça barde aujourd'hui en Crimée. Il y a des pro-russes. Nous ne savions même pas qu'ils existaient avant qu'ils ne sortent eux aussi dans la rue. Voilà des analyses bien incomplètes comme on nous les applique à nous aussi. Une lecture tout à fait sélective. Est-ce qu'il n'y a que ces gens-là qui ont chassé le pouvoir en Ukraine qui existe? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui soutenaient ce pouvoir-là? On les voit maintenant dans la rue. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce que cet encouragement qu'on a donné aux uns ne va pas provoquer l'implosion de ce pays? C'est des questions que nous nous posons.
Regardez l'Ukraine donc comme un mauvais exemple et les révolutions arabes, vous les regardez comment?
Ce
qui s'est passé en Tunisie,
nous regardons
par
l'Ukraine
exemple.
Pas comme un mauvais exemple. Nous dénonçons le fait que dans la relation que l'on fait de ces événements, il y a toujours une sélection en faveur d'un camp contre un autre. Les révolutions arabes, ce sont des révolutions qui concernent des pays dont certains sont des pays frères. Nous constatons que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, la Libye est complètement sens dessus-dessous. La Libye impacte négativement, la révolution qui a eu lieu en Libye impacte négativement l'Afrique. Et nous avons des exemples, même très près de nous, même dans notre pays ici, il y a des anturbanais qui sont venus.
Des islamistes,
qui
s'opposent. Simplement.
Qui s'opposent même à nos forces armées, qui aident les musulmans de ADF Nalu, ces rebelles ougandais, qui ont déstabilisé le grand nord du Kivu. Donc tout cela, des armes que nous avons retrouvées, il y en a qui viennent, des arsenaux qui sont venus de Libye. Cette révolution, est-ce que ça a été quelque chose qui a profité à l'Afrique?
Il reste
à se poser la question.
Ce que vous déplorez, c'est la façon dont ça s'est passé ou vous déplorez même le départ de Kadhafi?
La façon dont ça s'est passé, le fait que l'initiative a été prise d'ailleurs, peut-être que si on avait laissé les Libyens eux-mêmes résoudre leurs problèmes, ça aurait pris plus de temps, mais ça serait fait peut-être de manière à ne pas provoquer toutes ces conséquences que nous observons
donc,
maintenant.
Vous regrettez l'implication de la France dans cette affaire?
Nous regrettons le fait qu'on a ouvert des vannes maintenant qui sont en train de nous créer des problèmes, qui que ce soit qui se soit impliqué.
Et en Centrafrique, l'intervention française, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une très bonne chose, nous l'avons saluée et nous sommes allés même en appui de cette intervention parce que nous avons 850 fantassins qui sont là-bas, 250 policiers qui sont là-bas pour prêter main forte. C'est
pourquoi
quelque
vous
chose
choisissez
de positif.
Diplomatiquement d'aller en République centrafricaine alors même que vos forces armées sont importantes ici pour, j'allais dire, pour tenir, on en parlera après la pause d'information, mais pour tenir la sécurité du pays et ses frontières. Pourquoi avez-vous choisi d'être l'un de ceux qui a envoyé le plus fort contingent, notamment de policiers en RCA?
Je pense que lorsque vous parlez de la nécessité des forces armées ici pour tenir la situation, vous faites allusion à ces menaces qui nous viennent de l'Est.
Absolument.
Nous avons seulement 100, nous avons seulement 100 km de frontière avec le Rwanda et voyez tous les dommages que certaines interventions venues du Rwanda nous causent aujourd'hui. Or, avec la République centrafricaine, nous avons 1600 km. Alors, ne pas s'intéresser à cela.
Vous redoutez
une
contagion?
Ne pas participer à l'extinction des feux là-bas, parce que le feu au Rwanda nous a contaminés. Pourquoi est-ce que le feu en Centrafrique ne nous contaminerait pas? 1600 kilomètres, nous devons participer à l'extinction.
Vous redoutez une contagion?
Absolument.
Ouais.
Ça peut venir.
Et vous estimez qu'actuellement, ce risque est maîtrisé?
C'est en train d'être maîtrisé et nous espérons que les Nations Unies mettront tous les moyens, l'Europe mettra tous les moyens pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose.
Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. Beaucoup de questions encore à vous poser sur la situation notamment économique, sur la population, sur sa jeunesse ici en RDC. Avant cela, sur les antennes de RFI et sur TV5 Monde, un point de l'actualité.